Pensez-vous que votre voisin est la bonne personne pour pouvoir défendre vos intérêts? Non, pour de vrai. Pensez-vous que votre voisin est la meilleure personne pour défendre vos intérêts? Vous pensez peut-être que je suis naïf, hein? Vous pensez peut-être que je suis très naïf, hein? Peut-être que vous pensez que je suis une personne très naïve, hein? En me disant ou en me posant la question, à savoir si mon voisin peut être la bonne personne pour pouvoir défendre mes intérêts. Il y a quelque chose qui vous échappe, vous comprenez, hein? Il y a quelque chose qui vous échappe, hein? Alors comment voulez-vous que ce soit mon voisin qui puisse défendre mon intérêt? Mon voisin ne pourra pas défendre mon intérêt, monsieur. Vous comprenez, hein? Aucun voisin ne peut défendre mieux que vous, hein? Vous êtes la seule personne à pouvoir défendre vos propres intérêts, vous comprenez, hein? Parce que nous vivons dans une société de compétition. Nous vivons dans une société qui est régie par les lois du marché. Donc chacun a ses propres intérêts, vous comprenez, hein? Nous ne cessons pas de le dire, hein? Nous devons nous rappeler que nous vivons dans des sociétés de grande compétition. C'est-à-dire que chacun défend sa cause. C'est à chacun de défendre sa cause. Et même lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, lorsque vous êtes dans une crise, lorsque vous avez des problèmes avec d'autres personnes, même si également que vous auriez pu avoir des problèmes à l'intérieur de votre famille. Si vous avez des problèmes à l'intérieur de votre famille, les linges sales se lavent en famille, vous comprenez, hein? Les linges sales, hein, se lavent entre familles, vous comprenez, hein? Alors, ce ne sont pas les voisins qui peuvent venir défendre vos intérêts à l'intérieur de votre maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Alors, quand vous me posez la question, à savoir si mes voisins peuvent être les meilleures personnes à pouvoir défendre mes intérêts. D'ailleurs, même dans le cadre d'un procès, hein, même dans le cadre d'un procès, lorsque nous choisissons d'avoir un avocat pour défendre notre cause par devant la justice, par devant un juge, par devant un jury, l'avocat ne nous défendra pas en dehors de ce que nous voulons, hein, vous comprenez, hein? L'avocat, hein, notre avocat peut négocier dans notre dos. D'ailleurs, il y a beaucoup de procès, il y a plusieurs procès où les avocats se sont entendus entre eux pour pouvoir négocier eux-mêmes ce qu'ils comprennent aux dépens des intérêts de leurs propres clients, vous comprenez, hein? Alors, même un avocat ne pourra pas défendre votre intérêt, hein? D'ailleurs, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, hein, que les avocats, tout ce que fait un avocat, il essaie de comprendre les points faibles d'une loi. C'est ça, un avocat. Un avocat, son objectif, c'est de trouver les points faibles d'une situation. Vous comprenez? Donc, là où il y a les points faibles de la loi, là où la loi n'est pas allée, là où la loi ne peut pas donner de réponse, alors l'avocat doit trouver le point faible. Vous comprenez, hein? Il doit trouver les faiblesses de la loi pour pouvoir faire valoir son point de vue. C'est-à-dire qu'il va lier le problème que vous avez avec les points faibles de la loi et montrer à quel niveau que c'est vous qui avez raison. Mais lorsque les intérêts des avocats sont en jeu, lorsque des parties sont capables de payer beaucoup plus d'argent, alors certains avocats peuvent aller négocier contre vous, contre leurs propres clients. Bien sûr, on va nous dire que c'est pas éthique. On va nous le dire. Mais sauf que, dans la grande majorité des cas, votre avocat peut ne pas bien vous défendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, c'est la même situation, hein? Alors, quand vous avez un voisin, surtout si c'est un grand voisin, une grande puissance, qui a des intérêts à l'intérieur de chez vous, si votre avocat a des intérêts beaucoup plus économiques, a des intérêts politiques, dans votre procès, il peut négocier avec la partie adverse contre vous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah, vous pensez que les avocats ne peuvent pas nous défendre? Oh, bien sûr que non, monsieur. C'est pas tous les avocats qui sont moralement responsables. Les avocats, hein? Alors, quand vous prenez un voisin qui a des intérêts à l'intérieur de chez vous et qui est en compétition avec vous également, alors vous comprenez, hein? La situation se complique, hein? Alors, quand vous avez un avocat ou bien un grand voisin, une grande puissance qui a des intérêts à l'intérieur de votre propre pays, alors il peut pas dire qu'il peut vous défendre mieux que vous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah, vous pensez pas qu'il peut avoir de l'empathie pour moi? Oh, monsieur, écoutez bien. L'empathie, c'est dans le sens que la personne comprend votre situation. Et la personne peut se placer selon votre position. Donc, si la personne peut se placer selon votre propre position et comprendre votre réalité à partir de ce que vous vivez, sans liens affectifs, bien entendu. Parce que ce n'est pas de la sympathie, hein. Vous comprenez? L'empathie s'oppose à la sympathie en ce sens que la sympathie fait appel à des émotions, fait appel à des sentiments, fait appel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Alors que l'empathie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous comprend, et quand il vous comprend, et il comprend votre point de vue selon votre point de vue, il ne vous dicte pas quoi faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit souvent, hein. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui semblent ne pas saisir ma démarche, hein. La manière et le médium que j'utilise pour pouvoir parler des problèmes d'Haïti. Si moi je décide de parler en français, j'ai une bonne raison pour que je parle en français. La raison pour laquelle je parle en français, c'est que je ne veux pas que les étrangers, les francophones du monde entier, reçoivent des interprétations, reçoivent des traductions, hein, des traductions de ce que vivent les Haïtiens. Alors je leur dis dans leur langue, et alors ils n'ont pas besoin, si les journalistes dans leur pays décident de rapporter ce qui se passe en Haïti, et qu'ils disent le contraire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des gens qui interprètent, qui traduisent pour eux ce que les Haïtiens disent en créole, alors ils ne vont pas comprendre. Alors moi, quand je parle en français, par exemple, quand je parle en français, un francophone, un journaliste francophone, il a la bonne version. Et s'il ne rapporte pas la bonne version de ce que moi je dis, de ce que j'explique par rapport à la situation d'Haïti, les gens, les citoyens de ces pays-là, les citoyens francophones, peuvent aller chercher la bonne information et ils peuvent tomber sur mon discours. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Alors, s'ils sont capables de venir chercher l'information directement, alors ils auront la bonne version. Alors, leurs journalistes, c'est-à-dire les journalistes francophones, ne peuvent pas rapporter ce qu'ils veulent d'Haïti. Il faut qu'ils disent, ou bien il faut qu'ils écoutent. D'ailleurs, je l'ai remarqué, hein? Notre grande influence sur la presse francophone par rapport à ce qui se fait en Haïti et par rapport également nos prises de position concernant l'Afrique. Ils ne peuvent pas aller chercher ailleurs parce que nous leur donnons la bonne version et nous leur expliquons exactement ce qui se passe en Haïti dans leur propre langue. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire ce que je suis en train de dire, hein? Si nous, les Haïtiens, nous parlons en français, nous parlons l'anglais, nous parlons l'espagnol, nous parlons le portugais, nous parlons l'allemand, nous parlons toutes les langues. Et étant donné que les Haïtiens sont partout dans le monde, ça veut dire que nous parlons toutes les langues. Et si nous parlons toutes les langues, d'ailleurs j'invite les gens également, ceux qui veulent, ils peuvent traduire ce que j'ai dit et même publier la même chose, la même version que moi s'ils veulent. Alors, si vous parlez en anglais, si vous parlez en allemand, si vous parlez espagnol, si vous parlez portugais, si vous parlez arabe, vous pouvez reproduire ce que je dis dans la langue que vous parlez. C'est-à-dire, vous pouvez reproduire tout ce que je dis, vous pouvez même redire mot à mot ce que je dis en espagnol, en portugais, en anglais, vous comprenez, en allemand, hein, en grec, peu importe la langue, parce que nous sommes des Haïtiens et nous sommes partout dans le monde. Alors voilà ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis en train de vous expliquer que nous devons parler toutes les langues. Et la raison pour laquelle que je m'exprime en français, ce n'est pas parce que je ne veux pas parler en créole, ce n'est pas parce que je ne parle pas créole. Le créole, c'est ma langue. Il n'y a personne qui peut m'enlever cette langue dans ma tête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends très bien mon créole. Et quand j'ai commencé à étudier le créole, il y en a plusieurs parmi vous qui ne lisaient même pas le créole, alors que moi je lisais et j'écrivais le créole. Donc j'écris très bien également mon créole. Alors vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas parce que je veux parler en français, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle en français parce que je vois que c'est une faiblesse que nous avons. C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de gens. D'ailleurs, il y en a même qui sont à Strasbourg. Il y en a même qui sont à Paris. Il y en a un peu partout qui sont au Canada. Ils parlent très bien le français, mais ils refusent de parler en français. Je ne parle pas seulement pour les Haïtiens. Il faut comprendre la situation. Nous ne parlons pas seulement pour les Haïtiens. Nous parlons, bien sûr, nous parlons à la jeunesse, aux décideurs d'Haïti qui parlent français et qui comprennent le français. Mais notre message également, c'est un message que nous portons au monde entier. À tous ceux qui parlent en français, alors ils peuvent nous écouter, ils peuvent comprendre directement ce que nous disons et ce que nous vivons comme peuple haïtien. Dans quelles conditions que leurs représentants dans nos pays, les ambassadeurs qui vivent, qui sont... vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Les représentants plénipotentiaires. Les représentants des ambassades qu'ils envoient chez nous, qui sont accrédités dans nos pays, qui ne leur rapportent pas la vérité. Alors quand ils sont capables de nous entendre dans leur propre langue, alors ils peuvent faire une bonne idée, ils peuvent comprendre ce que vit le peuple haïtien. Voilà ce que j'invite les Haïtiens à faire. Ceux qui parlent en espagnol, ceux qui parlent en anglais, ceux qui parlent en espagnol, ceux qui parlent en arabe, ceux qui parlent en allemand, ceux qui parlent en grec, ceux qui parlent en turc, faites des blogs, faites des balados, faites des audios dans les langues des gens avec qui vous vivez. Ça permettra à tout le monde de comprendre notre situation. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer, je l'ai déjà noté, hein, j'ai déjà noté cette situation, hein. Si vous regardez à l'échelle international. Si vous regardez ce qui s'est passé en Afrique, ce qui se passe, ce qui continue de passer en Afrique, ce qui se passe en Haïti, cette prise de conscience des hommes noirs dans le monde. Les Noirs américains ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que nous devons faire présentement. Hein. Alors quand j'invite les gens qui vivent aux États-Unis, qui parlent très bien l'anglais, parce que je sais que je connais beaucoup qui parlent très bien l'anglais, mais qui préfèrent parler en créole. Alors qu'ils ont beaucoup d'amis anglophones, ils ont beaucoup d'amis noirs américains qui parlent anglais, qui ne comprennent ni le français, qui ne comprennent ni le créole. Ils continuent de parler en créole. Vous n'aidez pas la cause. Nous devons exporter. Voilà le gros problème que nous devons créer chez les Américains. Voilà ce que nous devons faire également chez les Américains. Nous devons transporter notre prise de conscience en Afrique, notre prise de conscience en Haïti pour l'éveil de l'homme noir en territoire américain. Mais la meilleure façon pour le faire, c'est de parler dans la langue des Noirs américains. Il faut parler l'anglais pour que les Noirs américains comprennent ce que vivent les Haïtiens, pour qu'ils soient conscientisés par rapport à ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de faire comme changement radical dans nos pays. Si nous sommes capables de transporter dans la langue des Américains noirs, dans la langue en anglais, la situation d'Haïti, la prise de conscience des Haïtiens, la prise de conscience des Africains, alors nous allons les forcer à collaborer avec nous. Nous allons forcer les représentants, nous allons forcer les Américains à comprendre notre situation. Alors, quand, voilà le lien que j'établis entre l'empathie. Entre l'empathie, hein. D'ailleurs, vous avez écouté l'ambassadeur américain en Haïti, hein. Vous avez écouté l'ambassadeur américain, hein. Quand vous écoutez le gars, le diplomate, vous devez voir et comprendre. D'ailleurs, je pense que si vous lisez mon livre, vous allez le découvrir là-dedans parce que j'explique cette situation-là quand quelqu'un se place à votre place pour essayer de vous montrer qu'il est empathique avec vous. Si vous lisez mon livre, vous allez le découvrir. C'est pas pour rien quand je vous dis, si vous lisez mon livre, vous allez découvrir des choses. Vous allez comprendre toutes les crises qui se passent dans le monde. Vous allez comprendre tous les problèmes politiques qui existent dans le monde, toutes les crises qu'il y a dans le monde. Lisez mon livre, le premier livre des Noirs, comment pensent les Noirs, comment pensent les Blancs. Vous allez le découvrir par vous-même et lorsque vous comprendrez ce livre, lorsque vous comprendrez tout ce que vous devez comprendre, vous allez faire un grand pas en avant. Alors voilà, je reprends l'ambassadeur américain qui nous témoigne une sorte de paternalisme diplomatique. C'est le paternalisme de la diplomatie américaine. C'est le paternalisme diplomatique américain. Alors, quand vous comprenez, hein, quand vous écoutez l'ambassadeur, quand vous l'écoutez, là, je parle de la rhétorique. Nous sommes au niveau de la rhétorique, la manière de dire les choses. Alors, si vous écoutez l'ambassadeur, hein, l'ambassadeur vous dit, nous voulons, hein, relever les mots, relever les vocabulaires qu'il utilise dans son discours. Nous voulons nos objectifs. Nous pensons que les problèmes doivent être réglés entre Haïtiens. Pour les Haïtiens, par les Haïtiens. Voilà la démarche intellectuel de son discours. Il faut saisir cette manière de parler avec nous. Il faut le comprendre, parce que à l'intérieur de cette manière de parler-là, vous allez comprendre qu'il ne fait que du paternalisme. C'est du paternalisme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de vous prendre en main. Et moi, je vais vous dire quoi faire, mais je dois vous montrer que je suis sensibilisé par votre problème. Voilà cette manière de parler. Nous voulons, alors quand je dis, je veux me placer de votre position, je comprends votre situation, c'est-à-dire j'ai de l'empathie pour vous. Si j'ai de l'empathie pour vous, ça veut dire que je peux me placer de votre point de vue pour comprendre le problème. C'est ça veut dire. Je peux me placer de votre point de vue, c'est-à-dire de là où vous êtes, de la manière que vous voyez les choses, moi je peux me placer dans cette position-là. Et puisque je comprends votre manière de penser, puisque je sais ce que vous vivez, je comprends ce que vous vivez et ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, moi, je peux me permettre de me placer de votre côté. Mais à l'intérieur de tout ça, les mots qui sont utilisés, nous voulons nos objectifs, nous pensons que, et là où il y a la chose qui est fondamentale, qu'est-ce qu'il va vous dire ? C'est qu'il va vous dicter, ses objectifs. Il va vous dicter le chemin à prendre, il va vous dicter quoi faire. Voilà ce que nous appelons, hein, ce que nous pouvons appeler le dictat empathique. Le dictat empathique ou le dictat par l'empathie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes au niveau de la rhétorique, c'est-à-dire la manière de dire les choses. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Alors, ce que les ambassadeurs américains habituellement font en Haïti, ils nous disent qu'ils nous comprennent, ils nous disent qu'ils ne veulent pas s'ingérer dans nos affaires. Mais en même temps, ils nous fixent les conditions. Ils nous disent comment nous devons faire les choses. Alors il se dit se placer de l'autre côté et il se dit qu'il comprend la manière que nous pensons, que nous voyons les choses, mais en même temps il nous impose sa volonté. c'est-à-dire le dictat, il nous dicte, parce qu'il nous dit très clairement qu'il a les objectifs, que voilà ce que sont les objectifs des Américains. Ce sont les élections. Le pays est en train de parler, vous comprenez la situation, hein? Le pays est en train de parler des changements radicaux. Le pays est en train de parler de révolution. Mais lui, il vous arrive avec quelque chose. Il vous arrive avec quelque chose pour vous dire, moi, je veux vous poser, nous avons comme objectif de supporter les Haïtiens pour l'organisation des élections afin qu'il y ait des vrais dirigeants qui arrivent dans le pays pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Arrêtez de nous raconter de vos cochonneries, monsieur. Arrêtez de nous raconter vos cochonneries. De quoi vous parlez, monsieur? Est-ce que vous comprenez ce pays? Est-ce que vous avez compris cette situation? Non, vous ne comprenez rien, monsieur l'ambassadeur. Vous ne comprenez rien de ce pays-là. Quand vous ne comprenez rien, alors taisez-vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, la situation, hein? Il essaie de se placer de notre côté en disant, je n'interviens pas, nous n'intervenons pas au niveau des problèmes d'Haïti. Mais nous avons des objectifs. Ah, voilà la situation, hein, vous comprenez, hein? Nous avons des objectifs et, de plus, nos objectifs, c'est que nous voulons que ce soit vous, les Haïtiens, qui arrangez les choses. Mais quel Haïtien que vous parlez, monsieur? Avec le gouvernement en place, voilà le problème, ce qui pose problème également. Voilà le problème qui est posé présentement. Lorsque des représentants américains qui ne disent pas à leur gouvernement, qui ne disent pas à leur peuple. D'ailleurs, voilà ce que habituellement les ambassadeurs qui arrivent des grandes puissances, des grands voisins comme les Américains, qui arrivent comme les ambassadeurs de la France en Haïti. Voilà ce qu'ils font, les ambassadeurs du Canada quand ils arrivent en Haïti. Voilà ce qu'ils font. Ils savent très bien dans leur pays qu'ils peuvent pas faire de la corruption. Ils savent très bien. Ils savent très bien que dans leur pays, ils peuvent pas faire de la magouille. Chez eux, il n'y a pas de. Ils savent très bien, s'ils sont dans la corruption, ils vont perdre leur job. Ils le savent très bien, chez eux, dans leur pays, ils savent très bien que chez eux, ils ne peuvent pas faire de la magouille. Mais quand ils arrivent dans des pays comme Haïti, ce qu'ils font, ils vont faire de la magouille, ils vont faire beaucoup d'argent. Comment ils vont faire cet argent-là? Ils vont utiliser des moyens détournés pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont en contact avec des dictateurs. Quand ils sont en contact avec nos propres dictateurs, nos propres dirigeants qui sont des vagabonds. Alors, on va détourner les attentions pour pouvoir leur permettre ou permettre à leur famille, permettre à des proches de faire beaucoup d'argent dans le pays. Voilà le comportement des ambassadeurs qui arrivent souvent des pays étrangers en Haïti, voilà ce qu'ils font quand ils arrivent dans les pays du Sud, dans les pays sous-développés. Voilà, si vous saisissez ça, si vous comprenez cette situation, vous allez comprendre que tous les ambassadeurs qu'on envoie chez nous, qui arrivent des pays occidentaux, et qui arrivent de ces pays-là, et n'importe quel autre pays également, hein, n'importe quel autre pays, hein, ils ne font pas de la corruption chez eux, ils ne sont pas dans la corruption chez eux. Quand ils sont dans leur pays, mais quand ils débarquent chez nous, ils se mêlent dans les corruptions. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent de l'argent de nos propres dirigeants. Ils reçoivent par des personnes interposées pour faire beaucoup d'argent. Voilà pourquoi leur discours, c'est un discours de petits vagabonds. Est-ce que vous comprenez cette situation-là? Alors, si vous comprenez tout ça, alors, quand je vous parle, ou bien quand vous me posez la question, à savoir si mon voisin peut défendre mieux que moi mes intérêts, ma réponse est non. Ma réponse est non parce qu'aucun étranger ne peut venir en Haïti, aucun étranger ne peut comprendre la réalité d'Haïti, ne peut défendre mieux que Haïti ses propres intérêts. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que l'étranger a des intérêts chez moi. Et si je sais qu'il a des intérêts à l'intérieur de mon propre pays et qu'il cherche par tous les moyens à pouvoir m'imposer sa volonté, à créer des conditions pour pouvoir exploiter davantage mon pays, alors je sais très bien qu'il ne sera jamais de mon côté et il ne pourra jamais défendre mes propres intérêts. Est-ce que vous comprenez cette situation-là? Alors, si vous pensez que quand l'ambassadeur américain est en train de dire qu'il a des objectifs pour Haïti, les objectifs américains pour nous, qu'il a également la volonté de changer les choses. Mais il faut que nous passions par les élections. Il faut que nous passions par les élections pour que nous ayons un gouvernement légitime et légal. Mais il nous impose également son dictat avec le gouvernement de Ariel Henry. Alors, voilà le problème. Hein. Autrement dit, c'est de la cruauté diplomatique. On peut l'appeler comme ça. Hein. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est de la cruauté diplomatique. Pourquoi ? Parce que quand un ambassadeur des États-Unis est à Port-au-Prince, quand un ambassadeur est sur la route de Tabar et qu'il voit à tous les jours qu'il y a des Haïtiens qui quittent leur région, qui quittent leur quartier parce qu'il y a des bandits de Ariel Henry, bien sûr, ce sont des bandits que eux autres aussi, que l'ambassade américaine, à travers Reginald Boulos, a imposé, a placé dans le pays. Ça, nous le savons déjà. Alors, quand vous avez un ambassadeur américain en Haïti, quand vous avez un ambassadeur américain en Haïti qui est témoin de la méchanceté que le pays est coupé, que le pays est divisé, que des populations sont déplacées, que personne n'arrive à vivre et que de la violence à tous les jours, il y a du monde qui meurt à tous les jours. Et que vous nous proposez qu'avec Ariel Henry, vous voulez faire quelque chose. Ça veut dire que vous manquez de respect même pour vous-même, monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a même pas de respect pour lui-même parce que c'est de la cruauté. Vous êtes un complice, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, vous êtes un complice. Vous êtes complice. Vous êtes complice de l'assassinat du peuple haïtien. Vous êtes complice de tous les crimes, de tous les crimes qui sont commis dans le pays. Vous êtes complice, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, imaginez-vous que la ville de Chicago ne peut plus fonctionner et qu'à tous les jours, qu'on trouve des personnes qui ont la tête coupée et qu'on dépose leur cadavre, leur tête, on trouve même pas leur tête partout. Est-ce que vous imaginez ça, que la ville de Chicago soit comme ça? Est-ce que vous avez imaginé que la ville de Washington puisse se réveiller à tous les matins et que des populations de tous les districts se retrouvent à être déplacés, que les gens ne peuvent plus aller travailler, que les gens ne peuvent plus faire le commerce et qui sont obligés d'aller dormir dans les écoles publiques des États-Unis? Est-ce que vous comprenez ça, monsieur l'ambassadeur? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez rapporté tout ça aux élus américains? Est-ce que vous avez rapporté tout ça aux représentants des Américains, au Sénat américain? Est-ce que vous l'avez rapporté, monsieur l'ambassadeur? Non, vous ne le rapportez pas parce que vous êtes complice de cet assassinat sur le peuple, de ce massacre que l'on fait sur le peuple haïtien, monsieur l'ambassadeur. Vous ne comprenez pas. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Non, en fait, vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien ce qui se passe dans le pays. C'est que vous êtes complice parce que vous avez collaboré avec ces bandits-là. Vous êtes un diplomate. Bandit. Vous êtes un bandit diplomate, monsieur. Si vous êtes capable de dire et de vouloir que ce changement doit se faire avec Ariel Henry, ça veut dire que vous êtes son complice. D'ailleurs, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres relations avec Ariel Henry. Je ne sais pas, nous ne savons pas quelles autres relations que vous pouvez avoir quand vous êtes caché derrière les rideaux. Nous ne savons pas quelles autres relations que vous pouvez avoir avec lui. Je ne sais pas qui monte sur qui. On ne sait pas qui se penche devant qui. On ne le sait pas. Alors arrêtez de nous raconter des cochonneries quand vous êtes témoin de cette violence atroce qu'on exerce sur le peuple haïtien et que vous imposez, vous voulez nous imposer Ariel Henry dans un changement. Vous ne comprenez pas cette situation-là. Non, vous le comprenez très bien. Mais vous choisissez votre camp, monsieur l'ambassadeur. Vous n'êtes pas digne du peuple américain. Vous n'avez pas le droit de rester dans le pays. Vous devriez prendre votre valise et retourner chez vous. Voilà ce que vous devez faire, monsieur l'ambassadeur. Parce que vous ne représentez pas dignement le peuple américain. Vous ne comprenez pas que le peuple américain n'aurait jamais toléré que la ville de New York soit divisée, soit détruite par des gangs. Il y en avait des gangs à Harlem. Qu'est-ce que vous avez fait? que faisait la police à Harlem. Il y avait des bandits à Los Angeles, qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait des bandits à Chicago, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le South Side, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le Hillside, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur l'ambassadeur? Dites-nous comment vous avez fait pour empêcher que votre pays soit dévasté par des bandits, par des gangs. Dites-nous. Non, vous ne pouvez pas le dire. Parce que ce sont des nègres. Nous devons les monter les uns contre les autres. Parce que ce pays de nègres qui a pris son indépendance par les armes, nous devons les monter les uns contre les autres. Voilà ce que vous prenez comme discours. Voilà le discours qui est en arrière de votre soi-disant discours. Voilà ce qui se cache derrière vos objectifs de la démocratie. La démocratie n'a jamais sauvé personne. La démocratie doit être adaptée à la réalité d'Haïti. La démocratie doit s'adapter à la réalité. Ce n'est pas Haïti qui doit s'adapter à la démocratie. C'est à la démocratie de s'adapter à la réalité d'Haïti. Lorsque la démocratie, à travers les représentants, défend des intérêts étrangers, cette démocratie ne nous convient pas, monsieur l'ambassadeur. Vous devez le comprendre, vous devez le comprendre. Alors quand vous nous imposez la démocratie, nous allons faire le changement et ce changement doit se faire par des Haïtiens. Je sais que vous allez lancer des assassinats contre nous. Nous le savons très bien comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez toujours avec le crime. Vous avez le sang des Haïtiens sous vos mains, monsieur l'ambassadeur. Si vous êtes capable de proposer la présence de tout changement avec Ariel Henry, ça veut dire que vous avez le sang des Haïtiens sous vos mains. Et si vous avez le sang des Haïtiens sous vos mains, monsieur, un jour ou l'autre, vous allez le payer. Pourquoi? Parce que la réponse est simple. Parce que en supportant Ariel Henry, vous supportez l'assassinat des Haïtiens par des bandits de Ariel Henry. En supportant, quels ont été les résultats des rapports d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Lorsque le FBI est entré en Haïti pour aller faire enquête, quelles informations qu'ils ont recueillies dans le pays, qui étaient les coupables, qui étaient les assassins du président Jovenel Moïse, qui ont été témoins, qui ont participé à cet assassinat-là. Pourquoi le FBI ne sort pas? Ou bien quand ils sortent quelque chose, tout est caviardé. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, puisque vous parlez très bien le français et que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire, arrêtez de nous raconter des cochonneries. Vous avez le sang des Haïtiens. Et tant que vous supportez Ariel Henry, vous aurez encore le sang des Haïtiens sous vos mains, monsieur l'ambassadeur. D'ailleurs, vous êtes en train de boire ce sang à tous les jours. Je me demande à tous les jours si vous cachez pas derrière vos bureaux avec un verre de sang des Haïtiens. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que quand vous faites semblant de comprendre la situation d'Haïti et qu'à travers un semblant de sympathie, à travers un semblant d'empathie que vous manifestez, que tout doit se faire par les Haïtiens, tout doit se faire par les Haïtiens, hein, avec le gouvernement actuel. Monsieur, vous allez être témoin de quelque chose, monsieur. Vous allez voir que le peuple va prendre Ariel Henry, ils vont le juger sur la place publique. Et quand le peuple va juger Ariel Henry sur la place publique, monsieur, vous allez comprendre que ce peuple haïtien ne recule pas quand il s'engage dans ce combat. Voilà ce qui échappe toujours aux Américains. À chaque fois qu'ils veulent nous envoyer des ambassadeurs, des représentants, ces ambassadeurs patauchent dans la corruption en Haïti. Ils collaborent avec des dictatures. Voilà ce que nous devons expliquer au peuple américain. Voilà ce que nous devons expliquer au monde entier. Que leurs représentants, lorsqu'ils arrivent en Haïti, parce qu'ils reçoivent des cadeaux des dirigeants, des dictateurs que nous avons chez nous, des criminels, des assassins comme Ariel Henry, ils arrivent chez nous, ils reçoivent beaucoup d'avantages, ils reçoivent des avantages par personne interposée. Voilà comment ce qui prostitue la diplomatie américaine. Vous êtes de prostituée de la politique, de la diplomatie américaine, monsieur l'ambassadeur. Vous prostituez la diplomatie américaine. Le peuple américain, c'est un grand peuple, comme disait Serge Beaulieu. Mais sauf que le peuple américain ne sait pas ce que font ses dirigeants. ces dirigeants, quand ils ont débarqué chez nous, les Noirs américains ne savent pas ce que l'ambassadeur américain est en train de faire en Haïti. Quelle collaboration qu'il fait. Qu'il collabore avec des dirigeants haïtiens, des criminels, pour massacrer le peuple haïtien à tous les jours, qui supporte. L'ambassadeur américain en Haïti est en train de supporter les bandits. Et s'il est en train de supporter les bandits, il faut que nous portions cette cause par devant le Congrès américain. D'ailleurs, je vous le dis, je le répète encore, envoyez des messages en anglais au peuple américain. Envoyez des messages pour que personne ne traduise pour vous, à votre place, ce que vous dites. S'il vous dit seulement en créole, si vous le dites seulement en créole, il y aura des gens, il y aura des petits esclaves qui vont le traduire pour eux. Et la traduction qu'ils vont faire de ce que vous envoyez comme message ne sera pas ce que vous auriez dit. Voilà ce qui fait toute la différence. Vous pouvez imaginer et comprendre ce qui se passe présentement dans le pays. Quand vous avez des populations d'Haïti qui sont obligées de quitter leur région, leur quartier, pour aller vivre dans des écoles publiques, sur des places publiques, et qu'à tous les jours, le peuple haïtien se réveille avec des cadavres partout dans les rues. Quand vous avez des populations qui n'ont plus rien à manger, qui sont pas capables d'aller travailler, quand vous avez des enfants qui ne sont pas capables d'aller à l'école parce que les écoles sont envahies par des populations qui ont quitté leur quartier, et que vous avez des ambassadeurs étrangers en Haïti, des ambassadeurs des grandes puissances, des grands voisins d'Haïti, qui supportent cette violence-là. Alors vous avez un gros problème moral. Et quand vous constatez qu'il y a ce problème moral, et que des représentants des Américains sont en train de supporter des bandits en Haïti, et que l'ambassadeur des États-Unis en Haïti est en train de supporter la violence, il faut le dire au peuple américain pour que le peuple américain se réveille. Il faut dire au peuple américain que ses représentants en Haïti sont en train de supporter Ariel Henry qui a participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais plus encore, que cet ambassadeur est en train de supporter des bandits juste pas trop loin de là où il habite. Il y a des bandits comme Vitellum. Il y a des bandits comme 400 Marozo. Ils sont tout proches de lui. D'ailleurs, ils arrivent même devant chez lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, quand vous avez des ambassadeurs étrangers en Haïti qui représentent le grand voisin américain, et que vous avez également un président américain, Joe Biden, qui avait dit, laissez périr ce pays. Alors, vous comprenez la situation, hein? Alors, peuple haïtien, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde parce que les représentants des États-Unis en Haïti, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, est en train de collaborer avec des gangs. Il finance ces gangs, il leur donne des armes, il leur donne de l'argent. Il les protège. Et il veut qu'ils fassent partie du changement d'Haïti. Non, monsieur, les bandits ne participeront pas à ce changement-là. Les bandits, comme Ariel Henry, ne peuvent pas participer à ce changement-là. C'est de l'impunité, monsieur. C'est de l'impunité, monsieur. Vous voulez qu'il reste là au pouvoir. Et combien de temps que vous allez pouvoir le supporter? Et moi, je vous le dis, ce qui s'en vient sera catastrophique et pour rien. Et peut-être même pour les États-Unis. D'ailleurs, j'ai entendu très bien l'ancien sénateur. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai entendu l'ancien sénateur Jacques Sauvergeon qui apporte quelque chose de nouveau. J'ai entendu l'ex-sénateur Jacques Sauvergeon qui nous dit très clairement peut-être qu'il faudrait proposer des alternatives à ces voisins-là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire finalement? Il dit que finalement, ce que nous comprenons, ce que nous pouvons comprendre de ce qu'il dit, c'est que nous devons opposer des intérêts étrangers, des intérêts impérialistes dans le pays. D'ailleurs, je pense que c'est ce que Moïse Jean-Charles est en train de faire. Il a compris, il commence à revenir sur la scène. il commence à revenir sur la scène. Il oppose aux intérêts américains la présence des Russes. Même si nous pensons que les Russes et même les Chinois sont très lâches parce qu'ils ne comprennent pas Haïti. Ils ne comprennent pas que le terrain est fertile pour eux. Le terrain est fertile pour accroître leur présence en Haïti. Ils ne le comprennent pas encore. Alors, donc, quand j'ai écouté l'ancien sénateur, Jacques Sauvergeon, il dit, nous devons jouer sur la compétition. C'est ça qu'il veut dire, finalement. Il faut jouer sur la compétition. Nous devons mettre les idéologies américaines en face des idéologies russes et des idéologies chinoises en Haïti. Afin de forcer tout le monde à nous permettre de prendre le destin d'Haïti en main. Nous devons faire d'Haïti ce carrefour idéologique. Voilà ce qu'il propose finalement. Haïti doit être un carrefour de confrontation idéologique parce que, avec toujours le même voisin, le grand puissant, le puissant voisin américain, si nous ne lui opposons pas des intérêts, si nous ne lui opposons pas des idéologies, même si on peut se poser la question par rapport à l'idéologie, hein, peut-être qu'il faudrait bien comprendre tout ça. Mais dans les faits et de façon théorique, c'est nécessaire d'opposer des idéologies à l'intérieur d'Haïti. Il faut configurer le pays, il faut arriver à configurer le pays de telle sorte qu'il puisse des idéologies concurrentes à l'intérieur du débat politique Haïti. Nous voyons que Moïse Jean-Charles essaye de revenir, il essaye de se reprendre en main. Il reprend sa vraie direction. Il faut qu'il continue dans cette voie-là, il faut qu'il avance. Ce n'est pas le changement en soi qui est important. C'est la manière de procéder pour y arriver qui est important. Parce que si nous voulons, à la manière haïtienne, de créer une vraie vie démocratique, non pas une démocratie à l'occidentale républicaine, c'est pas ça qui est en jeu. Non pas une démocratie à l'américaine ou une démocratie à l'occidentale, non pas ça. Une démocratie à la républicaine, ce n'est pas ça qui est en jeu. La vraie démocratie en Haïti, c'est lorsqu'il va se construire deux ou trois groupes, grands pôles politiques en Haïti pour forcer tous les Haïtiens à collaborer entre eux. Voilà où est-ce que nous essayons de vous conduire. C'est pour ça que nous forçons les gens à prendre position. Alors, il faudra qu'on arrive dans ce pays-là à avoir deux ou trois grands partis politiques pour créer la stabilité politique en Haïti. D'ailleurs, vous avez remarqué à ce niveau, hein, Jean-Claude Duvalier, hein, vous avez remarqué également le petit Nicolas Duvalier qui voulait devenir président, il n'a jamais parlé, hein, sur la crise d'Haïti. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais essayé de rassembler les forces duvaliéristes dans le pays pour constituer une vraie présence duvaliériste dans le pays. Pas parce que nous voulons le retour des Duvaliers, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse est beaucoup plus grand que ça. Il faut arriver à forcer les groupes idéologiques à se constituer en de véritables partis politiques. Quand nous parlons des partis politiques avec des milliers de personnes, c'est là que nous voulons arriver. Il faut qu'il y ait ce carrefour idéologique en Haïti. Il faut qu'il y ait des idéologies concurrentes à l'intérieur du débat politique en Haïti. En amenant cette situation-là, nous allons forcer et nous allons créer une démocratie à l'haïtienne. Nous allons créer une démocratie, une politique, un système politique propre à Haïti et qui est comparable à n'importe quel grand système politique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Canada ou partout dans le monde. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays avec 100 000 partis politiques. Vous ne pouvez pas avoir un pays stable, avec des centaines et des milliers de partis politiques, des partis, de petits partis, des particules politiques en Haïti. Vous ne pouvez pas avoir des multitudes de partis politiques. Il faut qu'il y ait deux ou trois grands courants politiques idéologiques en Haïti pour que le pays puisse trouver sa stabilité. Voilà ce que je pense avoir compris de ce que le sénateur Jacques Sauvergeon a voulu parler quand il parlait de la concurrence idéologique en Haïti. Il faut forcer ces groupes à se camper. Que ce soit une idéologie de gauche, que ce soit une idéologie de droite, que ce soit une idéologie du centre. Nous devons construire ce système politique où les Haïtiens peuvent se camper idéologiquement, mais sans que cela puisse avoir des effets pour déstabiliser le pays. Voilà où est-ce que nous essayons de vous conduire. Nous sommes en train de vous conduire là. Et je pense qu'il y en a. D'ailleurs, si vous regardez toute la génération qui est en train de se battre, tous ceux qui portent cet esprit de changement en Haïti, on se ressemble tous. Nous sommes tous la même incarnation de nos ancêtres. Nous sommes tous l'incarnation de nos ancêtres. Regardez bien, vous allez constater. Nous n'avons pas beaucoup de différences. Nous sommes toute la même génération qui portons quelque chose. Nous sommes la même génération. Si vous regardez bien, peut-être même que vous allez constater que les gens, ils sont nés un jour, un mois, un an, l'un de l'autre. Et que même ceux qui arrivent, ils portent la même idéologie et que vous essayez de les rassembler, vous allez trouver qu'ils sont tous un point en commun. C'est la même génération. Ils savent très bien, l'étranger sait très bien que nous sommes la seule et la même personne incarnée en plusieurs. L'étranger le sait, il sait très bien quand il regarde nos fiches, quand il regarde les informations qu'ils détiennent sur nous, ils se rendent compte à quel niveau que nous sommes la seule et la même génération et que nous sommes la seule et la même incarnation de nos ancêtres. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas essayer de rentrer dans nos jeux. Ils savent très bien que nous sommes la génération qui porte sur nos épaules le changement et qu'il y a des hommes de conviction un peu partout à travers nous. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que nous sommes mystiquement reliés les uns les autres. Nous sommes tous reliés, tous ceux qui portent ce mouvement, tous les leaders. Regardez bien, si vous regardez un peu partout dans le pays, tous les leaders qui sont en train d'émerger, ils sont tous la seule et la même génération, mais également ils sont tous la même et la même incarnation de nos ancêtres. Voilà ce qui nous lie mystiquement, mais également ce qui nous lie matériellement et physiquement. Ce qui nous lie, et les autres, ils le savent, parce qu'ils ont des informations sur nous tous, mais nous tous, nous n'avons pas d'informations sur nous tous. Voilà le gros problème que nous avons. Mais lorsque nous arrivons à comprendre que nous sommes portés par ce même esprit, que nous sommes tous ce même esprit, cette même intelligence, qui peut se comprendre à travers des gestes, à travers des mots. Nous, on se comprend. Et que nous puissions arriver à mettre ensemble toutes nos forces pour pouvoir chambarder ce système. Ils le savent, ils n'ont aucune chance, ils n'ont pas d'autre choix que de supporter le changement que nous allons leur imposer. Parce que nous sommes la seule et la même personne, les mêmes et les seules personnes incarnées de nos ancêtres. Ça, je vous le donne pour comprendre que nous ne sommes pas différents l'un de l'autre. Tous ceux qui portent ce changement, tous ceux qui s'affirment, tous ceux qui essaient de diriger ce pays vers un changement, ils savent que nous avons des convictions profondes. Ils savent que nous sommes capables de porter jusqu'au bout nos idées. Ils le savent parce qu'ils ont des données sur nous tous. Ils le savent. Pourquoi ? Parce que nous sommes la seule et nous sommes la même génération incarnée de nos ancêtres. Ça, ils le savent. Alors, quand vous regardez, et si vous me posez la question à savoir si mon voisin peut défendre mieux que moi mon intérêt, ma réponse est non. Aucun étranger, aucun voisin qui a des intérêts à l'intérieur de mon pays, et parce qu'il est gouverné, parce qu'il est orienté vers les intérêts personnels, parce que mon voisin a des intérêts chez moi dans mes problèmes, parce que mon voisin a des intérêts à l'intérieur de mes problèmes, et que mon voisin peut être également la source de mon problème. Mon voisin ne pourra jamais défendre mes intérêts mieux que moi-même. Alors le peuple haïtien sait très bien qu'il est le seul à pouvoir changer son pays. Et qu'avec ou sans la volonté des voisins, de nos voisins, nous allons changer ce pays. Et ce pays sera un pays où il sera bon vivre pour tous les Haïtiens et pour tous les étrangers qui voudront venir chez nous, profiter de notre soleil, de notre nature, de notre clémence, venir profiter de nos soleils, de nos mers chaudes. Oui, nous pouvons faire de ce pays le paradis sur terre. Nous devons créer Haïti à notre image. Et nous sommes capables de le faire. Et ce ne sont pas les voisins qui nous empêcheront de le faire. Qui t'a passé sur le flanc de tous les Haïtiens, qui t'a passé sur tous les Haïtiens. D'ailleurs, si vous regardez un peu partout, regardez pour voir à Montpilboro, comment les routes, il y a beaucoup de déblais, beaucoup d'écoulements. Hein? Vous comprenez, hein? Hein? Vous comprenez, hein? Regardez pour voir, vous allez constater que c'est de l'iridium, c'est de l'uranium. Pourquoi? L'objectif, c'est simple. Ils veulent exploiter nos richesses minières. Et pour cela, il faut qu'ils aient des représentants avec qui ils peuvent négocier, des commandeurs. Il faut qu'ils aient des commandeurs chez nous, comme des Ariel Henry. Malheureusement pour Ariel Henry, il sera jugé sur la place publique. Et je vous le dis, dans les jours à venir, les jours de Ariel sont comptés. Les jours de Ariel Henry sont comptés. Et c'est très sombre ce que je vois pour Ariel Henry. Ce que je vois pour Ariel Henry, c'est très sombre. Il sera immolé sur la place publique. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement et je vous le dis sincèrement. Si Ariel Henry ne remet pas sa démission le plus vite possible pour que les forces vives du pays arrivent à placer un gouvernement de transition pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Il sera jugé sur la place publique et on ne lui donnera pas sa chance parce qu'il est l'obstacle actuel de tous les changements du pays. Bien sûr, c'est un pion, comme le dit le sénateur. Bien sûr, il est un pion. Mais c'est à nous d'être les acteurs. C'est à nous d'être les joueurs. C'est à nous d'être les vrais joueurs qui déplaçons ces pions. Alors le peuple haïtien, c'est vous qui jouez, pour répéter le sénateur. C'est le peuple haïtien qui déplace les pions. Et nous devons déplacer Ariel Henry parce qu'il ne convient pas aux besoins du pays actuel. Et puisqu'il ne convient pas, nous devons le chasser du pouvoir. Parce qu'il est le symbole de la violence qui règne dans le pays. Il est le symbole du fatras, il est le symbole de la violence, des crimes qui sont commis par des bandits à tous les jours. Il est le symbole de l'impérialisme étranger dans le pays. Parce qu'ils veulent jouer avec lui. Il n'a rien compris. Et puisqu'il n'a rien compris, il passera. Il passera. Ariel Henry doit savoir qu'il doit passer et il passera. Dans les jours à venir, ce qui va arriver, monsieur, je vous le dis déjà, ce sera à l'intérieur de vous, ce sera en votre cœur, en votre sein, que quelqu'un va vous porter sur la place publique. Je vous le dis sincèrement. Vous serez porté sur la place publique pour être jugé devant le peuple. Parce que c'est en votre sein que le changement va commencer à se faire. Et les gens, ils ont pris conscience. À l'intérieur de vous, il y a des gens qui ont pris conscience que vous ne pouvez plus, qu'on ne peut plus vous tolérer. Voilà ce qui fait toute la différence. Nous sommes un grand peuple. Nous avons fait l'histoire et nous ferons l'histoire encore. Nous avons fait l'histoire et nous continuerons toujours de faire l'histoire. Que le nom grand et saint de Dieu soit béni pour toujours. Que le nom grand et saint De Dieu soit béni pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Merci, Père.